Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir, Liberté, La Presse et Le Nouvelliste. Au programme, S'enliser. Février, mois de l'histoire des Noirs, une minorité invisible. Un premier vaccin pour les abeilles suscite l'espoir et risques liés à la consommation d'alcool. La SAC doit faire mieux. Bonne écoute.
S'enliser, un texte de Aurélie Langteau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. On croirait que ces images ont été taillées sur mesure pour plaire à la presse et ravir les internautes. On y voit la militante écologiste Greta Thunberg, le sourire aux lèvres, comme assise sur un transat, être transportée par des policiers en habit anti-émeute. À peine la nouvelle de son arrestation, lors d'une occupation pacifique organisée à quelques kilomètres du village de Lutzerath en Allemagne, faisait-elle surface que, déjà, les clichés étaient partout, les mêmes défilant par centaines sur les réseaux sociaux. Il se dégage en effet de ces images quelque chose qui traduit bien l'humeur collective. Quelque chose comme un sentiment d'impuissance face à l'année qui s'ouvre sous le signe de l'enchaînement des catastrophes climatiques et des échecs politiques. Que peut-on faire, sinon se laisser arracher à l'essentiel en souriant par ceux qui détiennent le pouvoir de contraindre? On rit pour ne pas pleurer, ou un truc du genre. Sur sa page Twitter, le 18 janvier, Thunberg écrivait « Hier, je faisais partie d'un groupe qui manifestait pacifiquement contre l'expansion de l'exploitation du charbon en Allemagne. Nous avons été pris en souricière par la police, puis détenus, avant d'être relâchés plus tard dans la soirée. La défense du climat n'est pas un crime. » En photo, l'arrestation de Greta Thunberg semblait gentille et bien ordonnée. Après tout, il est plus difficile de rudoyer une personne qui a les caméras du monde entier braquées sur elle en permanence. Ça ne fait pas de très bonnes relations publiques. D'autres images captées sur le site de la manifestation laisse supposer cependant que les policiers s'en sont donnés à cœur joie dans les coups de matraque, la dispersion brutale des sit-ins et le harcèlement des manifestants. Apparemment, on avait décidé d'en finir avec l'occupation du hameau déserté de Lutzerath par des citoyens qui refusent que l'ancien village soit rasé pour permettre l'exploitation du charbon qui se trouve en dessous. Il s'agit plus précisément de charbon brun ou lignite, considéré comme la source d'énergie la moins efficace et la plus polluante. Moins dense, il faut en brûler davantage pour extraire la quantité d'énergie souhaitée. Ce projet minier est tellement absurde que des citoyens se sont mobilisés. L'ancien village, qui jadis comptait moins d'une centaine d'âmes, a eu un regain de vie. Des militants ont construit des installations de fortune, se sont installés dans les maisons abandonnées, déterminés à bloquer le développement du projet minier. Comme c'est souvent le cas avec les occupations qui s'étirent dans le temps, l'affaire a fini par attirer l'attention d'un vaste public et le projet charbonnier de Lutzerath est devenu le symbole d'un mode de développement qu'il faut à tout prix laisser dans le passé. Il y avait 15 000 personnes lors de la manifestation où Greta Thunberg a été arrêtée, ainsi que 1 000 policiers accompagnés de bulldozers, pour écraser, une fois pour toutes, la résistance. Lutzerath est situé en Rhénanie du Nord-Westphalie, le poumon économique et démocratique de l'Allemagne. Sa destruction fait partie d'une longue série d'évictions et de reconversions de villages en sites d'extraction de charbon. Depuis la Seconde Guerre mondiale, des centaines de villages allemands ont connu ce sort. Or, aujourd'hui, le procédé apparaît complètement anachronique, en contradiction totale avec les objectifs de transition énergétique de l'Allemagne et du reste de l'Europe. Un récent rapport de l'organisme Climate Analytics avançait que 25 % de l'approvisionnement en électricité de l'Union européenne provenait, en 2017, de l'exploitation du charbon et du lignite en son sol. À elles seules, l'Allemagne et la Pologne sont responsables de plus de la moitié des émissions issues des centrales au charbon européennes. Or, pour respecter l'objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré, le quart de ces installations aurait dû être fermé avant 2020 pour atteindre 47 % en 2025. Au début de 2022, tout juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Allemagne s'était engagée à s'affranchir du charbon d'ici 2038. Cet objectif était déjà insuffisant, selon l'accord de Paris. L'Europe aurait dû viser une sortie complète du charbon pour 2030. Puis, les enjeux géopolitiques ont fait dérailler complètement cette démarche. À l'automne 2022, le gouvernement allemand annonçait une intensification de l'utilisation de ses centrales au charbon au moins jusqu'en mars 2024, sur fond de crise énergétique à l'échelle de l'Europe. L'occupation de Lutzerath est en ce sens un symbole fort et un geste courageux. Mais on comprend que les citoyens se mesurent à des forces infiniment plus puissantes qu'eux. C'est ce désespoir teinté d'ironie que traduisent les photos de Greta Thunberg, se laissant emporter par les forces de l'ordre. Une autre vidéo virale a émergé des manifestations de Lutzerath. On y voit des policiers, chargés de leur lourd équipement anti-émeute, s'enliser dans le sol boueux, tomber les uns sur les autres en tentant de s'extraire de la mélasse. Un manifestant déguisé en moine médiéval sautille autour du peloton. Bien solide sur ses pieds, il nargue les agents, osant même en pousser un, doucement, mais juste assez pour qu'il tombe à la renverse. Les internautes n'en finissent plus de se réjouir de voir s'enliser les autorités chargées d'exécuter l'ordre de destruction de la nature, du territoire et des gens qui l'habitent. Une petite vengeance. Alors que, ce jour-là, comme tant d'autres, la violence de l'inaction climatique se conjuguait à celle des forces policières. C'était s'enliser un texte de Aurélie Lanctot paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Février, mois de l'histoire des Noirs, une minorité invisible. Un texte de Luca Pileri, paru le 7 février 2019 dans La Liberté, journal francophone du Manitoba. Alors que le mois de février célèbre comme chaque année l'histoire des Noirs, le constat est toujours le même au Canada. La population noire est sous-représentée. Que ce soit dans les milieux économiques, politiques ou médiatiques, l'ouverture reste un défi. D'après le recensement de 2016, 3,5% de la population canadienne s'identifie comme noire. Pourtant, cette même proportion ne se retrouve pas dans l'espace public. On est moins de 1%, observe Léonie Chatat, fondatrice et présidente directrice générale de la passerelle ID, Intégration et développement économique. Pour la franco-ontarienne, le combat se poursuit. Le constat est clair. Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière d'ouverture et de développement. Il faut que les minorités visibles comprennent qu'elles ont toutes les compétences pour contribuer au système social, politique et économique. Montrez l'exemple. Avec la passerelle, créée il y a plus de 20 ans, Léonie Chatat veut favoriser l'intégration des immigrants francophones, dont la plupart sont issus de la minorité visible. Il faut éduquer et sensibiliser, insiste-t-elle. C'est dans cette optique que le Conseil de développement des talents bilingues francophones a été lancé en 2015. On sensibilise les employeurs et les cadres dirigeants à la valeur ajoutée que les immigrants apportent, souligne la fondatrice. Car celle qui a été nommée à la Commission ontarienne des droits de la personne en 2017 remarque qu'un certain nombre de jeunes qualifiés se retrouvent à des postes de bas niveau. Exemple de réussite, l'entrepreneur Winnie Bernard veut inspirer les autres. En témoigne son podcast ICE, Innovateur, Créateur, Entrepreneur. On veut mettre de l'avant les communautés sous-représentées, comme les femmes, les minorités visibles, les LGBTQ. Il y a de belles histoires de succès, mais on n'en parle pas, regrette-t-elle. À travers ses interventions, la Torontoise sait l'importance de la représentation auprès des jeunes. Voir qu'il existe des gens comme eux qui ont leur propre entreprise ou qui travaillent à haut niveau dans des entreprises leur montre qu'ils peuvent aller plus loin. Avec l'agence de relations publiques 2 Créative qu'elle a fondée en 2016, elle offre même de former les jeunes francophones au numérique avec le programme Créateur Z. Des réalités variées. La seule ville de Toronto rassemble 42% de la population noire du pays, d'après Statistique Canada. Toronto est la ville la plus multiculturelle avec Montréal et Vancouver, note Léonie Chatat. Si dans la métropole l'enjeu est surtout économique, d'autres problèmes se posent ailleurs. On trouve le défi du vivre ensemble dans d'autres régions. Certaines communautés se sentent parfois envahies, évoque-t-elle. Née à Toronto, à une époque où elle pouvait compter sur les doigts de la main les personnes noires ou issues d'autres minorités visibles, Winnie Bernard a vu le changement s'opérer. « J'ai vu la francophonie s'ajuster jusqu'à un certain point. Les discours doivent aussi s'ajuster, car la francophonie est multiple. Aujourd'hui, l'interculturalité est omniprésente dans le monde où je vis. » Elle-même se considère comme franco-canadienne avant tout, mais n'occulte pas ses origines haïtiennes. « Je suis plus d'une chose. J'ai toujours navigué dans cette biculturalité. » Dans les provinces de l'Ouest, la représentativité est encore plus faible. « Combien comptez-vous de députés provinciaux noirs dans les prairies ?» interroge Paulin Mulatrice, professeur en sociologie au campus Saint-Jean à Edmonton. Au niveau fédéral, le Conseil des ministres n'en compte qu'un seul, Ahmed Hussein, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. La bataille se poursuit. Même constat dans les médias. Je vois une certaine représentativité à Radio-Canada, mais pas dans les positions d'autorité. C'est la même chose dans tous les mondes, économie, politique et médias, perçoit Paulin Mulatrice. Y compris en éducation, où la vaste majorité des postes de direction est occupée par des personnes blanches, selon lui. Il y a des enjeux de pouvoir immenses. C'est difficile de parler d'une inclusion sociale et économique sans être dans les milieux décisionnels. Le sociologue estime que l'on pourrait faire plus pour intégrer ces populations. On retrouve peu d'entrepreneurs noirs en milieu francophone. Ces initiatives ne sont pas encouragées. Ça prend une volonté politique pour bâtir un entrepreneuriat dans ces milieux-là. On a tendance à les présenter comme des demandeurs d'emploi, mais ils ont plein d'idées. Paulin Mulatrice voudrait plus d'initiatives de soutien aux jeunes Canadiens noirs, comme celle lancée en juin 2018 par Patrimoine canadien. Car l'enjeu de la représentativité concerne tout le monde. On ne peut pas bâtir une société équilibrée en excluant une partie de la population. On ne peut pas penser que ces gens-là peuvent être dans le décor social comme des passagers clandestins. Ils doivent être inclus à tous les niveaux, avance le professeur. D'après Statistique Canada, les Noirs constituent le groupe minoritaire le plus jeune au pays, avec 27 % d'entre eux ayant moins de 14 ans. En outre, le recensement de 2016 a montré que les Noirs avaient un taux de chômage de 12,5 % contre 7,3 % pour la moyenne nationale. Pas de doute, donc, que la bataille se poursuit pour Paulin Mulatrice, qui constate une évolution très lente et la persistance des préjugés historiques. C'était Février, mois de l'histoire des Noirs, une minorité invisible, un texte de Luca Pileri, paru le 7 février 2019 dans La Liberté, journal francophone du Manitoba.
Un premier vaccin pour les abeilles suscite l'espoir. Un texte de Daphné Cameron, paru le 17 janvier 2023 dans La Presse. L'invention d'un premier vaccin destiné aux abeilles mellifères suscite l'espoir chez les apiculteurs du Québec, qui doivent composer année après année avec des mortalités considérables au sein de leurs ruchers. Au début du mois de janvier, le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, a délivré une approbation conditionnelle pour l'usage d'un vaccin visant à lutter contre la loque américaine, une maladie bactérienne virulente. L'entreprise Dalan, Santé animale, qui commencera par distribuer le vaccin au sud de la frontière de façon limitée, a indiqué à la presse qu'elle entreprendrait le plus vite que possible les démarches pour faire accréditer le produit au Canada. Nous avons commencé des discussions avec le Centre canadien des produits biologiques vétérinaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, l'année dernière, avec notre partenaire de fabrication aux États-Unis, a indiqué l'entreprise américaine dans une déclaration écrite. Maintenant que nous avons l'entrée sur le marché américain, nous pouvons commencer la procédure pour une approbation de l'ACIA, a-t-elle ajouté. La loque américaine est une maladie extrêmement contagieuse causée par la Pinibacillus larvae. Elle infecte les larves des abeilles mellifères dès les premiers jours après l'éclosion. C'est une bactérie qui cause une maladie dévastatrice dans les ruches depuis 100 ans, explique Pierre Giovenazzo, professeur de sciences apicoles à l'Université Laval. C'est une bactérie qui fait des spores, qui résiste pratiquement à tous les traitements de stérilisation, ajoute-t-il. Le vaccin, qui contient la bactérie morte, est administré dans la nourriture des abeilles ouvrières qui vont ensuite l'incorporer dans la gelée royale. Lorsque la reine mange la gelée, des fragments du vaccin se retrouvent dans ses ovaires. Puisqu'elles ont été exposées au vaccin, les larves développent une immunité contre la maladie. Des essais menés en laboratoire ont démontré que la mortalité des larves a pu être réduite de 30 à 50% après la vaccination des reines, rapporte un article publié en octobre 2022 dans la revue savante Frontiers in Veterinary Science. La transmission d'une immunité de la reine vers les bébés, c'est vraiment intéressant, souligne le professeur Giovenazzo. En 2020, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, a analysé 119 échantillons prélevés dans des ruches. À la suite de cette analyse, 7 entreprises ont reçu un diagnostic positif de la maladie. Selon le MAPAC, la bactérie peut survivre plus de 40 ans dans l'environnement sous une forme dite sporulante. Pour s'en débarrasser pour de bon, les apiculteurs choisissent généralement de brûler leurs ruches. Même si tu utilises des traitements aux antibiotiques, tu vas cacher le symptôme, mais la maladie, elle est toujours là, explique le président des apiculteurs et apicultrices du Québec, Raphaël Vacher. Les larves d'abeilles sont blanches. Dès que tu commences à avoir de la loque américaine, leur couleur change. Elles deviennent jaunâtres, ou brunâtre. Ça pue aussi, ça sent les œufs pourris. Le couvain devient dégueulasse, décrit M. Vanier. Partout dans le monde, les apiculteurs se plaignent de voir leur colonie d'abeilles s'effondrer. Plusieurs causes sont montrées du doigt, comme les changements climatiques et l'usage des pesticides. Mais c'est le Varroa destructor, causé par une espèce d'acarien parasite qui s'est introduite au Québec dans les années 1990, qui est avant tout responsable. Au printemps 2022, le Varroa a causé des pertes d'une ampleur historique au Québec, avec une mortalité hivernale moyenne de 60 %. Même si la loque américaine n'est pas la principale cause de l'effondrement des colonies au Québec, l'outil est accueilli avec enthousiasme par les apiculteurs du Québec. Je suis super content de voir que, pour la première fois, il peut y avoir un vaccin pour les abeilles, indique M. Vacher. Une ruche se retrouve parfois avec 2, 3 ou 4 maladies à gérer en même temps. C'est certain que si on élimine la loque, écoute, c'est sûr que là, on vient de se donner un 20-25% plus de chance. Pierre Giovenazzo abonde dans le même sens. Les abeilles ont quasiment au-dessus d'une vingtaine de virus différents qu'on ne peut pas traiter. Alors, ça ouvre la porte peut-être pour le développement de traitements antiviraux. Difficile de savoir si et dans combien de temps le vaccin pourrait être autorisé au Canada, puisque l'agence fédérale s'est bornée à dire que, pour des raisons de confidentialité, la CIA ne peut pas divulguer si un fabricant, y compris Dalen, Santé animale, a soumis une demande de produit ou non. En savoir plus. Le secteur apicole québécois comptait plus de 500 producteurs possédant 57 000 ruches en 2021, selon Statistique Canada et Union des producteurs agricoles. 35 %. Proportion des terres agricoles à l'échelle de la planète qui dépendent des pollinisateurs comme les abeilles, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'était « Un premier vaccin pour les abeilles suscite l'espoir », un texte de Daphné Cameron, paru le 17 janvier 2023 dans La Presse.
Risques liés à la consommation d'alcool, la SAQ doit faire mieux. Un texte d'opinion de Lisa Courtemanche, présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, paru le 19 décembre 2022 dans le Nouvelliste. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai visionné le documentaire « Péter la balloune » d'Hugo Meunier. Étant employée de la SAQ depuis plus de 25 ans, et maintenant présidente du syndicat de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, CSN, je me questionne quotidiennement sur la responsabilité, la mienne et celle de la société d'État pour laquelle je travaille, à l'égard des Québécoises et des Québécois. Alors que se multiplient les études confirmant les liens étroits entre de nombreuses maladies graves et la consommation de boissons alcoolisées, la vente de ces produits peut-elle vraiment être éthiquement responsable? Pour mes collègues et moi, il est clair que la réponse est oui. Toutefois, pour ce faire, la SAQ doit travailler avec l'ensemble des composantes de l'organisation pour s'assurer de respecter l'un des éléments prioritaires de son mandat, soit celui de placer le bien collectif au cœur de toutes ses décisions. Cette part du mandat semble avoir été reléguée aux oubliettes depuis bon nombre d'années, comme en témoigne notamment la quasi-absence d'informations sur l'aspect éthique de la vente d'alcool dans la formation des salariés et le manque de ressources auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Les employés des magasins et bureaux de la SAQ sont les mieux placés pour constater les dangers de l'approche marketing actuelle qui, à coup de publicité et de promotion de toutes sortes, en augmentation de 10 millions par an entre 2018 et 2022, encourage la consommation au lieu de la modérer. Je ne compte plus les clients et collègues qui ont progressivement développé des problèmes liés à la consommation d'alcool. La SAQ, en encourageant le développement du réseau des agences privées comme des dépanneurs offrant une gamme de produits dépassant souvent celle des succursales à proximité, se déresponsabilise complètement du contrôle de ces produits. Ajoutons à cela la vente en ligne, poussée fortement par la SAQ, alors qu'elle ne permet aucunement la vente éthique. Et nous voilà devant la tempête parfaite. L'alcool n'est pas un produit comme les autres. Sa commercialisation et sa vente doivent faire l'objet de considérations particulières. Les coûts tant humains que financiers qui découlent des maladies liées à l'alcool explose. Et c'est pourquoi, plus que jamais, le gouvernement doit inviter la société d'État à revoir ses priorités. Mes collègues et moi serons au rendez-vous pour travailler avec la SAQ à ramener à l'avant-plan une approche de vente responsable qui valorisera une consommation intelligente dans le but de réduire les risques pour la santé des Québécoises et des Québécois. C'était Risques liés à la consommation d'alcool, la SAQ doit faire mieux. Un texte d'opinion de Lisa Courtemanche, paru le 19 décembre 2022 dans le Nouvelliste.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Gilbert Lepage et Luc Mercure à la lecture, Suzanne Beauchamp, André Lebeau et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.